France Musique. Les grands entretiens, Priscille Lafitte, France Musique.
Je suis Christoph Eschenbach. Je suis né le 20 février 1940 à Breslau. Je suis chef d'orchestre et quelquefois aussi pianiste. Ça, c'est ma vie.
Christoph Eschenbach, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ici à Paris dans un somptueux appartement sous les toits. Un appartement que vous avez acquis, il me semble, en l'an 2000, lorsque vous avez pris les rênes de l'Orchestre de Paris. Vous avez des vies multiples, Maestro Eschenbach. On va parcourir les différents lieux, les différentes mémoires qui ont marqué votre parcours en tant que pianiste et en tant que chef d'orchestre. Nous allons donc mener ces grands entretiens en français, même si l'allemand est votre langue maternelle. Dans quelle langue est-ce que vous vous adressez aux musiciens ?
Dans la langue française, ici, à Paris, avec l'Orchestre de Paris, au Orchestre National, que je dirige parfois, et en Allemagne, en allemand, aux États-Unis, en anglais, en Espagne, en espagnol, et en Italie, en italien.
Est-ce que vous préférez le mot de dirigent ? De conducteur ou de chef?
Je n'aime pas tous les trois. Parce que le dirigeant, ça inclut une chose autoritaire peut-être. Le chef aussi. Et je suis avec toutes ces positions que j'avais eues. Avec tous les instruments que j'ai joués, je suis un musicien, pas plus.
Et conducteur en anglais, peut-être?
Conducteur, ok. Ah ben, j'ai une bonne histoire de ça. En Amérique, je devais renouveler ma carte de sécurité sociale avec une femme derrière une vitre et... Elle avait mes détails là sur papier. Elle demandait avec quelle compagnie vous avez travaillé récemment. Sur compagnie, pas avec un orchestre, j'ai dit. Mais ça dit conducteur. Elle pensait que j'étais conducteur dans un train.
Où est-ce que vous avez appris votre français qui est excellent?
Oui, à l'école, j'étais sur un lycée des nouveaux langues, français, anglais et latin. 9 années de latin aussi. Et bon, là j'ai fait mes débuts en français. Mais j'ai vraiment appris le français en France, à Paris, dans d'autres villes, et dans des festivals où j'ai joué comme pianiste, et finalement avec l'Orchestre de Paris.
Votre langue maternelle, c'est donc l'allemand.
Oui.
Vous êtes né à Breslau, vous l'avez dit, dans une ville qui est aujourd'hui polonaise, qui a été détruite par les bombardements. Vous êtes retourné dans cette ville?
Je suis retourné quelques fois, mais beaucoup plus tard, dans l'année 2000, dans l'année 2003. Mais... ces bombardements et ces impressions que j'ai eues là-bas, ça veut dire avec 3 ans, 4 ans, sont très vivants en moi. C'est pas quelque chose qui est effacé.
Vous êtes donc né un 20 février de l'année 1940 à Breslau. Qu'est-ce que vous savez de vos parents biologiques ? Vous avez un père qui est musicologue et chef d'orchestre aussi ?
Oui, plutôt chef de chœur.
Chef de chœur.
Il avait le plus grand chœur en Silésie, c'était la province autour de Breslau. Et il était un chef de chœur passionnant. Il a dirigé des œuvres du commençant de Heinrich Schütz jusqu'à Orff et Hindemith. Et il était professeur à l'université de Breslau pour la musicologie. Il a publié un livre sur un vieux écriture du médiéval d'un cloître. Il fallait déchiffrer tout ce qui était là dans des vieux clés et sur des papiers qui s'étaient abîmés. Bon.
Il y a donc des archives du travail de votre père.
C'est ça.
Que vous avez acquis ensuite. Oui, qui vous a été transmis.
Je connais seulement le livre qui était imprimé après la guerre, après la mort de mon père.
Oui, parce que si on parle ici de vos parents biologiques, c'est que vous avez perdu très jeune vos deux parents. Vous avez perdu votre mère à votre naissance,
oui.
Si je ne me trompe pas. Et votre mère, elle-même, était pianiste.
Elle était pianiste, oui.
De concert ou professeur?
Elle était très jeune. Elle était... oui, elle était professeur, pas professeur, mais enseignante. Et... je ne sais pas beaucoup de ma mère, comme vous pouvez deviner, parce qu'elle est morte avec ma naissance.
Elle avait quel âge?
28.
Et, il y a des archives de son jeu de piano?
Non, elle. Non. C'était un temps où on ne faisait pas encore des enregistrements, mais on ne pouvait pas parce que la guerre était en plein cours.
Est-ce que vous avez gardé des objets, des souvenirs de vos parents?
Non, rien. Et avec ma grand-mère, j'étais réfugié pendant un an parce qu'on était, on devait quitter la Silésie, on devait quitter Breslau.
Vous avez quitté Breslau à l'âge de
4 ans? À l'âge 5.
5 ans. Donc vous avez pu voir votre père pendant ces années-là?
Oui, très peu, parce qu'il était, il devait quitter son job à Breslau parce qu'il était un peu, pas un peu, beaucoup, il montrait beaucoup son antipathie pour le nazisme. Et on l'a chassé à notre petite université, mais où il ne pouvait rien faire.
Donc il est venu vous rendre visite de temps
oui,
en temps.
Oui, il est quelquefois venu rendre visite, mais c'était aussi observé. C'était pas du tout naturel. Et je me rappelle quelquefois, il venait vraiment avec une petite barbe là, collée, qu'on ne pouvait pas reconnaître.
Parce qu'il se cachait des autorités à ce moment-là.
C'est ça. Oui, tout ça, tout ce temps-là est très, très, vous pouvez imaginer, très compliqué, très douloureux, très, très terrible.
Les souvenirs de votre père que vous avez aujourd'hui, ce sont des histoires que votre grand-mère a eu le temps de vous transmettre?
Ma grande-mère est morte sur le chemin de réfugiés. Mmh. Alors, j'ai rien d'elle, sauf le souvenir que j'ai moi-même de mon père, le peu que je l'ai vu.
Votre grand-mère et vous partez comme réfugiés dans le Mecklembourg, c'est ça?
Oui. Nous sommes arrivés après retournant une fois et quitter une autre fois. Il y avait deux invasions là en Silésie. C'est d'abord l'invasion des Russes, puis les Polonais. Parce que c'était une histoire très compliquée politique entre les Russes et les Polonais et entre Staline et Hitler. Et c'était pour les for the grown-ups, ça devait être terrible. Et moi, comme enfant, j'ai naturellement pas remarqué tout ça, mais bon. Seulement les conséquences.
Donc la conséquence, c'est votre grand-mère qui elle-même meurt.
Oui, j'étais seul.
Vous êtes seul dans un camp de réfugiés.
Dans un camp de réfugiés à Mecklembourg. Et là, ma grand-mère, deux jours avant qu'elle est morte, à Noël 45, et dans ce camp de réfugiés. Elle a écrit une carte postale à ma deuxième mère, qui habitait à Mecklembourg, qui était une cousine de ma mère et une très bonne amie d'elle. Mais cette carte postale n'est pas arrivée avant un mois plus tard. Alors un mois plus tard, on avait les maladies dans le camp des réfugiés, le typhus, par exemple. Et moi, en décembre, quand il est arrivé, là, au début décembre, il y avait 60 personnes. Et à la fin de janvier, quand ma deuxième mère, la cousine de ma mère, m'a trouvé dans des circonstances aussi horribles et très courageuses d'elle, j'étais le dernier vivant. Comme j'ai fait ça, je ne sais pas.
Elle a réussi à venir vous chercher.
Oui, mais elle ne pouvait pas parce que là, le camp était sous quarantaine. Mais elle a, avec un peu d'argent, elle a donné ça à des paysans qui m'ont pris.
Cette deuxième mère, vous la connaissiez déjà avant ?
Non.
Non. Mais elle connaissait votre existence par cette amitié qu'elle avait avec votre mère.
Ouais.
Ça. Elles avaient étudié le piano ensemble.
Oui.
Ça. Et elle vous recueille chez elle comme son propre fils.
Oui.
Elle avait elle-même d'autres enfants ?
Non. Et ça, c'était peut-être pour elle, c'était un deuil de me soigner. Et en même temps, moi, j'étais l'objet d'amour pour elle. Et vice-versa.
Les grands entretiens de Christophe Eschenbach, France Musique.
Cette deuxième mère vous a soigné chez elle. Elle a pris soin de vous pendant de longs mois, pendant que vous étiez en convalescence, en quelque sorte.
C'est ça, oui.
Oui.
Et je l'ai écouté jouer le piano chaque soir. Il a joué 2, 3, 4 heures. Et j'ai écouté la première fois les œuvres de Bach, de Beethoven, de Chopin, de Rachmaninoff, de tout ce qu'il jouait.
Vous n'aviez pas de souvenirs musicaux pendant votre première enfance ?
Non, ça c'est aussi une autre histoire. Ma mère avait un frère, je ne le connaissais pas, parce qu'il était mort aussi. Il est mort avec 14 ans, il est ertrunken, dans le fluss.
Il est mort noyé ?
Oui, c'est ça. Et apparemment, ça j'ai entendu plus tard, il était un très doué violoniste. Il avait 14 ans quand il est mort. Et quand ma mère était morte aussi, les deux enfants de ma grand-mère, elle voulait pas entendre de musique. C'était une faute, je pense. Mais je peux aussi, d'un certain côté, valuer ça. Et dans cette maison de ma grand-mère, il n'y avait pas de musique. Et s'il y avait de musique dans la radio, c'était coupé. Et elle était quasi allergique après la mort de ses deux enfants, qui étaient tous les deux, ma mère aussi, on me disait, tous les deux très très doués. C'était assez pour ma grand-mère.
Donc cette seconde mère qui vous élève est une cousine de votre première mère ou...
Oui.
Vous savez quelle proximité elles avaient ?
Ça, je ne l'ai jamais demandé. Parce que je ne voulais pas comme enfant à me mettre trop dans ces histoires de famille. Parce que j'avais plus de famille originale et j'étais un certain peur de me mélanger dans des détails de famille. Je voulais pas.
Votre deuxième mère ne vous parlait pas, elle ?
Non, elle ne me parlait pas parce qu'elle sentait quelque chose. Où j'avais des réactions qui étaient pas normales. Et j'étais tellement heureux avec cette nouvelle vie familiale que aussi cette cousine de ma mère ne voulait pas trop expliquer les choses.
Donc vous vous êtes reconstruit avec cette femme, au contact de cette musique.
Oui.
J'ai lu et j'ai entendu que vous aviez eu toute une période de cette enfance à la sortie des camps de réfugiés où vous ne pouviez plus parler.
Non, je pouvais pour presque une année, je n'ai pas parlé parce que j'étais trop plein des impatiences. Et peu à peu, avec entendre ma deuxième mère jouer et avec entendre cette inimaginable beauté de musique et de sentiments dans la musique, qu'avec ça, j'ai trouvé la langue de nouveau. Et quand ma mère, ma deuxième mère, a vu ça, parce que j'étais à minuit encore avec des yeux grands et réveillés, elle m'a demandé, veux-tu faire aussi ça? Et là, j'ai dit oui. Oui pour la musique, c'était mon premier mot après presque un an.
L'enfance de Christoph Eschenbach a été bercée par cette rêverie au piano Träumerei en allemand, tirée des scènes d'enfants de Robert Schumann, ici interprétée par Vladimir Horowitz. À la prise de son Thomas Robin, réalisation Marie Grou, mixage Claude Nior, attaché de production Flora Sternadel. Les références discographiques, la réécoute et le podcast sont disponibles sur notre site francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.